Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde sur Radio Escapade. Nous sommes le 22 octobre. Aujourd'hui, on va parler pas mal d'eau, que d'eau avec les inondations qui font réfléchir enfin peut-être les pouvoirs publics à des solutions pour eh bien, limiter justement les écoulements et autres inondations catastrophiques que l'on a pu voir. On ira faire un tour du côté de Lyon, où la métropole apparemment a décidé déjà rendre accessible aux eaux de pluie le pied des arbres, ce qui semble assez simple comme ça, mais il faut quand même que ça soit pris à un niveau d'instance, ce genre de décision, pour que ça puisse avoir un effet. On va reparler de pollution de l'eau, avec notamment l'affaire de l'usine Solvay à Saint-Lindre dans le Gard, et de nouvelles analyses révélées par Reporters et Génération Future. Et puisqu'on parle pollution, et bien l'affaire du chlordécone aussi fait un retour sur les bancs des jurisprudences françaises aujourd'hui même. Donc voilà, ça fera un petit peu le lien sur ces histoires de pollution au long cours qui nous pourrissent la vie. Mais avant tout cela, on va parler, je vous rappelle, eh bien, de la grande inquiétude qui plane sur toutes les radios associatives, et donc y compris votre radio Cévenol préférée, Radio Escapade. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi, le budget qui est en ce moment en train d'être discuté à l'Assemblée nationale de manière assez hasardeuse et avec peu d'espoir sur de réels débats. Eh bien, en tout cas, le budget 2025 pourrait être un vrai coup de guillotine pour les coupes budgétaires qui concernent donc les radios associatives. Hein. 770 radios locales sur le territoire français, eh bien, ont lancé donc un appel au secours, un coup de gueule face au projet de loi de finances 2025 qui prévoit de réduire de 35% le FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale. Ça représente une enveloppe qui était pour l'année dernière de 37,5 millions d'euros. Et l'idée, c'est de la descendre à 25,3 millions d'euros. Donc 12 millions en tout sur cette enveloppe et 10 qui concernent directement les radios. Et ainsi, dans toutes les campagnes françaises, hein, de Lorient à Rodez, en passant par Tours ou Saint-Hippolyte-du-Fort, l'inquiétude grandit quant à la coupe dans ce fonds qui est essentiel pour la survie de nos médias indépendants. On peut lire notamment le rapport à la ruralité, et qui est très très fort dans l'ADN de nombreuses de ces radios associatives. Et on venait justement, avec Sou Rachida Dati, de vivre le printemps de la ruralité. Hein. C'était il y a quelques années, c'était voulu donc sous l'ancien gouvernement par la ministre de la Culture. Il avait été justement constaté lors de ce printemps de la ruralité que 250 des radios de grande ruralité étaient bien des vecteurs essentiels de soutien culturel, et c'est pourquoi avait été décidée une dotation complémentaire de 10 000 euros chacune pour 2024. Hein, nous, on devait en bénéficier. Eh bien, visiblement, ce n'est pas 10 000 euros de plus qu'on risque d'avoir, mais plutôt quelques dizaines de milliers d'euros en moins. Ça, c'est notamment Thomas Moreau qui s'en alarme. Lui, il est directeur de Radio Gâtine, président de la Fédération des radios associatives du Poitou-Charentes. Comme quoi, on vit tous un petit peu la même situation, quel que soit le format de la radio et quel que soit le territoire sur lequel elle est implantée. Alors, au niveau des radios locales, on cherche tous à être épaulés par les députés locaux pour obtenir des amendements à ce budget. Mais cela, évidemment, dépend pas mal des géométries électorale de chaque département, de chaque circonscription. En tout cas, les représentants de la CNRA, la Confédération Nationale des Radios Associatives, ainsi que du SNRL, ils sont tous réunis sous l'étiquette Les Locales, c'est ce qui regroupe toutes les radios associatives de France, ont bien été reçus au ministère de la Culture vendredi dernier. Rachida Dati, la ministre elle-même, était donc présente et il y a eu une écoute attentive et bienveillante, mais tout se jouera au Parlement. Précisez bien donc Jean-Marc Courrèges, qui est coprésident de la CNRA. Ces radios associatives doivent être aujourd'hui entendues, aujourd'hui même donc, par la commission des finances pour tenter de défendre leur cause et ce qui ressemble à une miette de pain dans l'épine du budget gouvernemental, mais qui pour nous est justement le gros du beefsteak. Chez Escapade, je rappelle, ça pourrait marquer la fin par exemple de 2 salaires sur les 4 que nous sommes et donc par conséquence ensuite un énorme coup de frein sur toutes les activités culturelles ou éducatives que nous menons qui elles-mêmes ramènent de l'argent dans le budget. Donc voilà, c'est un petit effet travailler moins pour gagner moins. Et tout cela sans parler de l'effet domino qui sera certainement aussi observé vu que les collectivités territoriales aussi râlent et peinent déjà à maintenir les deux bouts et risquent de voir de grosses coupes arriver aussi du côté de leur financement. Et donc, par rebond, les radios associatives, les médias, les associations locales elles-mêmes vont certainement pouvoir avoir droit à moins d'aides, de subventions ou d'appels à projets. Et donc, c'est encore des recettes en moins, voilà. Je précise du coup pour cette question, si vous le souhaitez, aujourd'hui à 15h30 sur notre antenne, on va justement diffuser une émission spéciale qui a été réalisée dans le cadre de ce syndicat national qui s'appelle Les Locales et qui s'intitule tout simplement « Qui veut la mort des radios associatives ?». Ça dure environ une demi-heure et vous comprendrez un petit peu mieux notamment le fonctionnement, par exemple financier des radios associatives, mais pas que, puisqu'elles reposent bien évidemment sur de très très nombreux bénévoles, mais pour ça il faut des locaux et une équipe pour les accueillir. Voilà, donc aujourd'hui 15h30, qui veut la mort des radios associatives diffusées sur nos ondes et que vous pourrez aussi évidemment retrouver en podcast très rapidement.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien.
Les députés locaux, tiens justement on en parle, puisque ce dimanche à la foire de la pomme et de l'oignon doux des Cévennes, le député Alexandre Allégret-Pilot, le député de la 5e circonscription du Gard dont nous dépendons et qui est sous l'étiquette RNLR, donc un ciotiste, il a été enfariné et pris à partie par une quarantaine de personnes dès son arrivée dans les allées de cette foire qui est organisée au Vig ce dimanche. Une quarantaine de personnes qui tapaient sur des casseroles et brandissaient des pancartes ou des slogans contre la venue donc de ce député d'extrême droite et en dénonçant justement les politiques de casse sociale de cette branche de l'échiquier politique. Il lui demandait donc de quitter la manifestation, ce qu'il a fait après s'être pris notamment quelques jets d'oignons et un sac de farine sur la tête. Le député annonce donc porter plainte après avoir reçu de la farine et des légumes sur la tête et il s'est offusqué de l'avenir de la liberté d'expression dans notre pays. La personne qui a jeté la farine a, elle, été interpellée sur le moment. Elle a été entendue hier par le tribunal d'Alès suite à l'ouverture d'une enquête par la gendarmerie du Vigan. Le procureur de la République d'Alès indiquait que le prévenu avait reconnu les faits de jet de farine et qu'il s'agissait selon lui d'un geste de réprobation politique. Il devrait lui être proposé une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Voilà pour ce qui est de cette petite affaire de la foire de la pomme et de l'oignon doux du Vigan. Et j'en ai profité pour aller voir ce qu'il en était justement de l'autre affaire qui touche, le député en question, Alexandre Allégret-Pilot, puisqu'on attend toujours des nouvelles de la procédure qui a été lancée au mois de juillet par un candidat perdant à l'élection législative. Il s'appelle Nordine Tria et lui souhaite invalider justement la candidature d'Alexandre Allégret-Pilot, sur qui pèsent notamment de forts soupçons de corruption et de conflits d'intérêts. Ce nouveau député, qui était jusqu'alors inconnu en terre gardoise, puisqu'il a été parachuté depuis sa Haute-Savoie natale par le parti ciotiste, il est en effet parvenu à cristalliser toutes les attentions du milieu politique local, suite notamment à des révélations du journal Le Monde, dans un article du 11 juillet, où était dévoilée une aide de 1,3 million d'euros accordée par ce monsieur Allégret-Pilot à une société qui n'existait tout simplement pas. Et c'est donc à Alès, aussi dans la sous-préfecture du Gard, que Nordine Tria donc s'est mis en tête de faire annuler l'élection de ce parlementaire d'extrême droite. Et lui, il a d'autres arguments dans sa besace. Déjà, c'est un petit profil sur le plaignant. Donc c'est Nordine Tria qui est avocat au barreau d'Alès depuis 32 ans. Il a été aussi bâtonnier en 2006 et 2007. Il a déposé donc le 16 juillet dernier un recours devant le Conseil constitutionnel. Donc lui-même s'était présenté d'ailleurs en tant que candidat à la société civile sur la circonscription avec un petit score de 1%. Eh bien, il revendique que le gagnant de l'élection, avec ses 51,58%, je crois, pour le député ciotiste, eh bien, serait inéligible, et ce, pour des fonctions professionnelles qu'il occupait pendant la campagne électorale, notamment autour des missions de restructuration des entreprises. Il était également délégué interministériel adjoint aux restructurations d'entreprises. Ces fonctions lui confèrent donc une autorité et des responsabilités qui le rendent inéligible pour ce qui est de cette démarche. En position de chef des services des administrations civiles de l'État, il a autorité sur les antennes régionales, notamment la DRETS Occitanie par exemple, et donc le département concerné, ce qui constitue selon moi un motif d'inéligibilité. Voilà un extrait donc de la plaidoirie de Nordine Tria, qui n'a pour l'instant pas donné de suite de la part de la haute chambre. Est-ce que cela arrivera quand même un jour ?
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. J'ai demandé un petit café, c'est pour ça.
Voilà, un café avec pas trop d'eau, s'il vous plaît, parce que l'eau du robinet, c'est compliqué en ce moment en France. Reporter, donc le journal Reporter écologiste, donc, et l'association Génération Future viennent de rendre aujourd'hui publiques les conclusions de prélèvements d'eau potable dans plusieurs communes du Gard, toutes autour de l'usine chimique Solvay, qui est située à Salindres, juste au sud d'Alès. Et un de ces PFAS, le TFA, a été retrouvé en quantité significative dans 12 de ces communes qui ont eu ces prélèvements. On veut savoir, en tout cas, c'est le leitmotiv de très nombreux habitants du Gard depuis la date du 6 février dernier. Ce 6 février, c'est le jour où l'association Génération Future, ainsi que d'autres médias, Le Monde, France 3 et l'RTBF, révélaient que cette usine chimique de Solvay, donc à Salindres, rejetait dans l'eau de la rivière qui passe à côté, à savoir l'Arias, des quantités très importantes de TFA. TFA, c'est l'acide trifluoroacétique et il fait partie de cette grande famille de ce qu'on appelle les polluants éternels, les PFAS. Ça s'écrit PFAS, sont des initiales de termes chimiques assez compliqués. En tout cas, le TFA est très présent donc, dans ces eaux. Et Reporter démontre donc aujourd'hui qu'on en retrouve dans l'eau potable de nombreuses communes impactées par ce cours d'eau. On peut trouver donc en effet sur le site Reporter le résumé de cette enquête ainsi qu'une carte sur 13 communes qui ont donc été nouvellement qui ont donc pu bénéficier de ces prélèvements. 11 prélèvements effectués par l'association Génération Future et 2 autres par des collectifs citoyens sur place. À l'exception d'une de ces 13 communes, toutes puisent dans des nappes phréatiques qui sont liées au Gardon. Et dans toutes celles qui puisent donc dans la nappe liée au Gardon, le TFA a été retrouvé dans l'eau potable en quantité significative. Je le rappelle, donc, sauf celles qui ne puissent pas dans le Gardon. Je vous le dirai plus tard, la commune, c'est Valérargues qui est épargnée. Voilà, alors bon, pour toute le TFA a donc été trouvé, et on trouve ces résultats sur une carte, hein, c'est clair, on voit bien que cela suit un cours d'eau. Et sur la carte, vous pouvez donc zoomer, aller voir toutes les communes transportées par les eaux donc depuis l'usine de Solvay. Ce TFA se retrouve donc tout du long des rivières contaminées et dans l'eau potable donc des communes qui s'y approvisionnent. Les analyses indiquent de façon très claire que les rejets de la plateforme chimique de Salindres sont responsables d'un hotspot, donc un point chaud, très important de contamination en TFA, probablement parmi les plus importants au niveau mondial. Oui, rien que ça, ça ce sont les mots du communiqué de Génération Future. Sur la carte, donc, on voit bien qu'on suit le tracé du Gardon. Ça va en gros de Vézenobre jusqu'à Beaucaire. Sur cette carte et les tableaux qui vont avec, on regroupe 3 types d'analyses qui montrent la présence de ce TFA. Des analyses effectuées dans les rejets de l'usine, donc directement en sortie des tuyaux, puis dans les rivières, et enfin donc dans l'eau potable, le robinet à la cuisine. À noter, donc, je vous le disais, l'exception de cette commune qui est épargnée dans ce tableau, puisque c'est la commune de Valérargues, où il y a une très faible présence de TFA dans l'eau du robinet, et c'est cohérent, puisqu'elle ne puise pas son eau à une source qui est en aval de Salindres. Cela, c'est donc un argument assez fort pour montrer que le TFA qui est retrouvé chez toutes les autres communes, eh bien, provient bien de l'usine de Solvay. au niveau des taux qui sont enregistrés, je vous donne quelques chiffres, même si vous allez voir, c'est assez compliqué, mais on est sur 19 microgrammes par litre, donc 19 millionièmes de grammes par litre, avec un taux ex aequo pour les communes de Boucouaran et Nozières et Saint-Théodorite, juste derrière Moussac. Mais alors attention, parce que sur le tableau, ça va de 19 à 0,5, mais cette diversité de résultats rend une interprétation délicate, parce que ça ne dépend pas que de la concentration de manière un petit peu moyenne. C'est des prélèvements qui ont été effectués de manière ponctuelle, donc certains fin 2023 ou début 2024. Et là, on a les concentrations les plus hautes, donc avec 18 et 19 microgrammes par litre. Ça diminue au printemps, on passe à 11 microgrammes pour la ville de Moussac au mois d'avril, puis encore en été. Donc ça dépend aussi de ce qui se passe pas mal dans la terre et au niveau du circuit de l'eau. Les 11 prélèvements du mois de juillet, par exemple, vont de 9 à 0,8 pour le plus faible trouvé. Alors c'est François Vaillerette, qui est le porte-parole de Génération Future, et qui explique que les prélèvements ont été effectués après une période de forte pluie, donc ça peut avoir un effet de dilution, parce qu'on est quand même sur des choses très très fines à mesurer, même si les effets sur la santé, vous le verrez, eux, sont assez importants. Bon, dans tous les cas, quels qu'en soient les chiffres, on est dans tous les cas bien, bien au-dessus de ce qui est considéré comme normal. Reste à savoir donc si c'est préoccupant en termes de santé publique. Ces taux, donc, même si par exemple, je vous le disais, pendant l'été, on est en diminution, ça reste très important pour des PFAS. On parle d'habitude plutôt en nanogrammes par litre qu'en microgrammes. Donc ça fait un écart de un rapport 1000 quand même, 1000 fois moins. Jusqu'ici, les révélations sur la présence de ces TFA dans l'eau potable n'ont amené à aucune action des pouvoirs publics, car le problème, c'est qu'il n'y a pas de limite réglementaire pour cette quantité de TFA dans l'eau potable. C'est un peu le gros éléphant dans la pièce du moment. Et si vous suivez un petit peu, bah, la question de savoir qui a la compétence sur la gestion de l'eau et donc de sa santé, eh bien, c'est en train d'être gentiment débarrassé de l'ARS vers les collectivités qui vont donc peut-être se retrouver avec des énormes factures pour pouvoir assurer une eau potable saine à son public, sans que les industriels n'en soient bien justement inquiétés. C'est un peu la conséquence aussi de cet article, on va revenir un petit peu dessus après. En tout cas, pour les résultats que je vous ai donnés, là, aucun n'est donc officiellement hors norme, puisqu'il n'y a pas de norme. Donc, dans l'article de reporter, sont donnés plein d'exemples aux États-Unis, en Allemagne, sur justement différentes tentatives de mettre un peu des limites. À titre d'exemple, je vous dis que l'Union européenne propose donc à ses pays adhérents, donc à l'Europe, d'adopter une valeur limite de 0,5 microgrammes par litre pour le total des PFAS dans l'eau potable. Le total, hein, parce qu'il n'y a pas que le TFA. Et donc là, pour l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, le TFA à lui seul, avec les chiffres qu'on a, eh bien, il dépasse déjà largement le seuil de 0,5 pour toutes les analyses publiées, hein, dans toutes les communes. Là. Et encore, donc, on a analysé que le TFA, mais il y a peut-être d'autres PFAS qui arrivent par d'autres types de pollution. Donc ça, c'est pour tout ce qui est chiffres sûrs et certifiés, hein, ça vient de sortir, et ça ne veut pas dire que d'autres communes qui sont autour et dont le nom n'est pas dans la liste sont épargnées, malheureusement non. Certaines communes ont bien le même réseau et donc la même source d'eau potable que leurs voisines, et ces analyses montrent en tout la présence de TFA sur 31 cités gardoises, vous pouvez aller voir sur la carte. Ça totalise une population d'environ 35 000 habitants, selon les chiffres de 2021 de l'INSEE. Et encore, là, on s'est arrêté au robinet donc, de l'eau potable et donc potentiellement de ce qui fait sur le corps humain qui va la consommer. Mais les eaux usées, après, eh ben, elles finissent pas leur vie dans la maison. Elles repartent dans d'autres cours d'eau que le Gardon, comme la Courme ou le Vidourle. Explique par exemple Stéphanie, qui fait partie du collectif Gardon l'eau saine. C'est un des collectifs qui s'est cotisé pour analyser l'eau potable de son village à Saint-Théodorite. Tant que des analyses systématiques ne seront pas effectuées sur tout le territoire, on ne saura pas précisément jusqu'où s'étend la pollution au TFA, explique le chargé de mission scientifique à Génération Future, Mathieu Ben-Braham. Malgré donc ce constat scientifique très alarmant et malgré les relances des journalistes qui font leur travail d'enquête, du côté de la direction de l'usine Solvay, on est resté pour l'instant muet, sourds et muets en tout cas aux sollicitations. Pareil du côté de l'ARS Occitanie, l'agence régionale de santé, qui avait pourtant réagi hein, aux révélations du mois de février dernier par Génération Future. Du côté de Solvay, à la fin du mois de mai, on promettait de réaliser une étude d'interprétation de l'état des milieux et de soumettre à l'administration un programme de mesure des composés fluorés d'ici la fin de l'année. Alors, est-ce que ces mesures seront mises en place? Le doute est permis, puisque je vous en ai parlé il y a quelques temps. Solvay a justement annoncé brutalement, à la fin du mois de septembre, que son usine allait fermer, enfin en tout cas arrêter son activité, d'ici octobre 2025. Et au passage, 68 emplois passent à la trappe. Ce groupe pharmaceutique, qui est d'origine belge, a expliqué que, justement, les nouvelles normes françaises et européennes sur les PFAS nécessiteraient d'importants investissements qui ne seraient pas justifiés au regard de la performance du site de Salindres ces dernières années. Donc merci, au revoir. Mais vous l'aurez compris, même si Solvay s'en va, la pollution, elle, persistera et peut-être sur des années et des années. En tout cas, certains citoyens, donc dépités de l'absence de réaction des pouvoirs publics face notamment à cette annonce, eh bien ça s'organise. Hein, le collectif Gardons l'eau saine, qui est situé à Saint-Théodorite, a par exemple testé de son côté un système de filtration de l'eau potable à domicile. Et il a constaté que ça marchait, donc avec une forte baisse du taux de TFA dans l'eau du robinet. Nous sommes contents, disent-ils, d'avoir trouvé une solution face à la pollution de notre eau potable, malgré le fait que ce soit un système individuel de filtration. Nous restons cependant mobilisés pour que le problème soit réglé de façon collective. C'est ce qu'ils écrivaient notamment sur Facebook le 9 octobre dernier. Donc voilà, ça remue pas mal du côté de l'usine Solvay à Vesnobres et du côté des eaux du robinet. Donc vous pouvez peut-être essayer d'aller voir ce qu'il communique, cette association Gardons l'eau saine, ou aller lire en tout cas les rapports et les recommandations de Génération Future si cela vous inquiète aussi.
Laisse béton.
Ouais, le béton, on en parlera juste après. Je me suis trompé de bouton. C'est pas grave. Une autre affaire, en tout cas, qui fait écho à cette question de pollution de l'eau, et c'est dans les colonnes de Mediapart qu'on lit ça aujourd'hui. On va partir de là. C'est une question, tout d'abord, une question prioritaire de constitutionnalité, la QPC. On va voir ce que c'est, mais en tout cas, ça concerne l'affaire du chlordécone, la contamination en chlordécone des îles de la Martinique et de la Guadeloupe. Depuis l'utilisation de l'insecticide, c'était entre 1972 et 1993. Est-ce que cette contamination, justement, ne devrait pas être qualifiée par la justice d'empoisonnement? Ça, c'est une des deux questions qui a été posée. Et ne faut-il pas revoir le délai des 10 ans, au-delà duquel, normalement, ce type de crime est, pour l'instant, prescrit? Ce sont donc des parties civiles dans cette affaire du chlordécone qui saisissent aujourd'hui même la Cour d'appel de Paris sur ces deux questions prioritaires de constitutionnalité. Une de ces questions est rédigée par le bâtonnier Georges-Emmanuel Germani et elle vise donc à juger l'État au pénal. C'est une procédure qui est pour l'instant impossible, hormis en passant par la CPI, la Cour pénale internationale. Et la deuxième question sur les 10 ans de délai soulève donc le sujet de l'intentionnalité dans l'histoire de cette contamination massive. Ce qui est en jeu ici, donc, après une instruction qui a déjà duré 17 ans, ce n'est pas anecdotique et ça ne se résume pas à un simple débat juridique. Car si cette QPC, notamment la question posée sur l'intentionnalité, est acceptée et renvoyée donc selon la procédure à la Cour de cassation puis au Conseil constitutionnel, ça permettrait de sauver toute la procédure judiciaire de l'affaire du chlordécone avec des conséquences qui pourraient être potentiellement colossales, puisque ça ouvrirait une voie juridique pour le jugement d'autres écocides et désastres liés aux pesticides. Jusqu'à présent, on était sur la jurisprudence dite de l'affaire du sang contaminé, une jurisprudence qui remonte à plus de 20 ans. Selon cette interprétation de la loi, donc, il n'y avait pas intention de tuer dans la contamination au VIH par la transfusion sanguine, hein, ça c'est l'affaire du sang contaminé. Donc, ce n'était pas un empoisonnement. Un empoisonnement sous-entend qu'il y a une intention. Eh bien, dans l'affaire du chlordécone, ça serait pareil. Car, selon eux, la toxicité du produit était à l'époque inconnue à l'époque de son utilisation. Donc, pas de responsable, pas de coupable. Une interprétation qui est difficilement entendable hein, pour les parties civiles du procès du chlordécone. On rappelle que l'OMS avait classé cet insecticide cancérogène possible en 1979. En 1975, encore plus tôt, une usine aux États-Unis qui fabriquait cette molécule avait été fermée en raison des dégâts provoqués autour et des problèmes de santé déclarés sur ses ouvriers. Plusieurs pays à la suite des États-Unis avaient carrément interdit le chlordécone dans les années 80, mais pas la France qui s'est mise à le produire et à l'exporter jusqu'en 90. Et quand enfin le chlordécone a été interdit sur le sol hexagonal, précisément à cause de ses effets toxiques, elle a continué de l'autoriser encore pendant 3 ans dans les deux îles antillaises. Il s'agit donc d'une pollution autorisée, organisée et légalisée par les administrations et les gouvernements de l'ancien État colonisateur à travers des relations privilégiées avec ceux qui revendiquent une filiation directe aux anciens maîtres esclavagistes. Ça, c'est la plaidoirie anticoloniale assez virulente de Malcolm Ferdinand dans un livre qui s'appelle « S'aimer la terre ». apparaître au seuil dans les prochains jours. Il est d'ailleurs partie civile au procès, hein. C'est un chercheur au CNRS qui travaille depuis une quinzaine d'années sur les multiples dimensions donc, de cette contamination des Antilles au chlordécone. Si on revient à l'affaire du sang contaminé, en 1998, la jurisprudence s'est appliquée en première instance et a abouti donc au non-lieu rendu en janvier 2023 pour le chlordécone. Ça a conduit à deux blocages. Le premier, je vous le disais, c'est la prescription des faits. Vu qu'on considère que la contamination, c'est comme un acte unique, comme s'il y avait eu une contamination un jour à un lieu précis. Or, c'est une intoxication continue qui s'étale sur des années, voire même des siècles. L'utilisation du chlordécone s'est officiellement arrêtée en 1993. Les faits étaient donc prescrits à la date de la première plainte qui a eu lieu en 2006. Et pourtant, la Martinique et la Guadeloupe sont encore pleines de chlordécone. La molécule coule de l'eau du robinet. Des quartiers entiers aujourd'hui sont encore obligés pour boire de trouver de l'eau minérale. Le deuxième blocage juridique porte sur la reconnaissance de la gravité des faits et des responsabilités. Le fait qu'il y ait eu un non-lieu, cette ordonnance de non-lieu, dit deux choses qui sont apparemment en contradiction, puisqu'à la fois on reconnaît une pollution aux effets nuisibles, d'autant plus graves et durables sur la santé, la flore, la faune, qu'elle a été provoquée sur un territoire insulaire, et à la fois, d'un autre côté, elle conclut à l'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des infractions d'empoisonnement, d'administration de substances, etc., etc. Donc l'objectif de ce qui se passe en ce moment là avec cette question prioritaire de constitutionnalité, c'est faire reconnaître l'empoisonnement qu'a constitué la contamination des Antilles au chlordécone. L'audience n'est pas publique, mais elle devrait aboutir à une réponse dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et on saura donc si cette procédure reprendra avec la possibilité de juger ou pas sur un empoisonnement. Quant à l'autre procédure en cours du scandale chlordécone, du côté donc administratif, ça se poursuit également. En juin 2022, le tribunal administratif de Paris avait reconnu la responsabilité de l'État et des négligences fautives en réponse donc à la plainte d'un ensemble de plus de 1200 personnes. Ces dernières, eh ben justement, ont fait appel. En jeu là, eh bien peut-être des indemnisations pour préjudice moral. Ah, le béton, c'est maintenant qu'on va en parler, on termine là-dessus, et ça résonne aussi avec les inondations de ces dernières semaines. C'est la métropole de Lyon, apprend-on dans le journal La Relève et La Peste, qui va enlever 400 hectares de béton pour limiter les inondations. Cette métropole de Lyon, ça, c'est quand même 59 communes en tout, avec 1,3 million d'habitants sur une surface de 55 000 hectares. Avec autant de foyers, les fortes pluies entraînent un problème de saturation des stations d'épuration qui rejettent alors toute leur eau sale dans le Rhône. Et surtout, des années de politique d'aménagement du territoire qui favorisaient le tout béton entraînent des inondations de plus en plus fortes dans un contexte de dérèglement climatique. On l'a encore vu avec les drames qui se sont passés en Ardèche ce week-end. Pour favoriser donc la captation de l'eau dans le sol, la métropole a mis en place un grand programme de désimperméabilisation du sol. Parmi les outils, un concept au nom poétique, les arbres de pluie. Il s'agit donc tout simplement d'enlever le bitume qui vient souvent coller jusqu'au pied du tronc des arbres sur une zone d'environ 10 mètres carrés pour que l'eau de pluie s'infiltre mieux dans le sol. Un arbre de pluie est capable de récolter de l'eau sur 400 mètres carrés. L'eau est aiguillée vers une fosse pour ne pas raviner le pied des arbres, qui est donc plus bas que le reste de la chaussée. Cela a si bien marché qu'on a décidé d'intégrer cette technique sur un système de fosse continue. En prime, connecter les arbres entre eux les rend beaucoup plus résistants grâce aux mycorhizes qui les relient dans le sol, explique le vice-président de la métropole de Lyon, Pierre Athanase, qui est en charge de l'environnement. On dirait qu'il redécouvre le fil à couper le beurre. Les 5 premiers arbres de pluie donc, ont été aménagés rue Vauban dans le 6e en novembre 2021. Le suivi de ces arbres montre donc bien que l'infiltration complète des pluies de la rue est possible avec une surface de 65 mètres carrés alors que la rue fait 660 mètres carrés. Pour ce qui est des pluies faibles à moyenne intensité et pendant l'hiver, les arbres ont infiltré 24 mm par jour. Pendant l'été, jusqu'à 40 mm par jour, 20 mm en 20 minutes même des fois. En 2023, la métropole de Lyon a donc vu les choses en grand suite à cette première petite expérimentation. 3 ans de préparation qui ont permis de planter 52 000 arbres. C'est un chiffre record sur une année. C'est plus que les 3 dernières années réunies. Et ainsi, sur l'ensemble de la métropole, ça fait 20 hectares qui ont ainsi été décroutés. Ça demande beaucoup d'ingéniosité aux différents métiers, explique toujours le vice-président de la métropole en charge de l'environnement. Cela demande donc beaucoup d'ingéniosité pour arriver à planter, car selon la rue, le profil est différent. Il a fallu que les agents comprennent pourquoi il fallait le faire, s'approprient les différentes techniques et que cette eau qui arrive, eh bien, qu'ils comprennent aussi que l'eau n'est pas mauvaise pour les arbres. En effet, pendant des décennies, c'est fou, mais certaines villes mettaient des bordures autour des arbres pour empêcher l'eau qui serait considérée comme polluée, c'est vrai qu'elle roule quand même sur le goudron sur lequel circulent les voitures, d'arriver au pied des arbres. Et un autre point de préoccupation majeur, c'est le sel qui est utilisé l'hiver pour déneiger les routes. Mais ils ont discuté avec des gens qui s'y connaissent bien, notamment la ville de Montréal, et ils leur ont montré que c'était pas si nocif que ça d'avoir du sel selon les quantités qu'on mettait. La métropole de Lyon est ainsi suivie dans le cadre du programme européen Life Artisan pour mesurer les résultats en termes de volume d'eau connectée, mais aussi donc de la viabilité des arbres et de la biodiversité qui revient. On explique ainsi, on mesure par exemple la tensiométrie, c'est la tension de l'eau du sol, la température, mais aussi le nombre d'espèces. On s'est d'abord intéressé aux espèces aériennes, que sont les insectes pollinisateurs et les oiseaux. Et maintenant, on va recenser la faune du sol, comme les vers de terre et les collemboles, l'explique toujours donc, le chargé de la métropole de Lyon. Petite cerise sur le gâteau, eh bien, ces arbres qui se retrouvent libérés du béton grandissent beaucoup plus vite, avec des croissances de 15 à 30 cm de plus pour certains, ce qui permet aussi donc, d'accroître la biodiversité, tout en créant des îlots de fraîcheur bénéfiques à toutes les espèces humaines et non humaines du territoire. Ce système de fosses continues permet de rafraîchir nos quartiers, car cela rapproche les arbres de hauteurs différentes, les grands arbustes et les couvre-sols. Dans les endroits végétalisés, on gagne 4,2 degrés Celsius de fraîcheur en moyenne et jusqu'à 7 degrés pendant les canicules. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, hein. Au lieu qu'il fasse 40, il fait 33. Donc, ils ont l'air assez contents du côté de Lyon. Avec sa position en sortie de la vallée du Rhône et l'absence de vent d'Est, en effet, Lyon est une des villes qui se réchauffe le plus vite en France. Selon un rapport de l'European Data Journalism Network de 2018, Lyon est donc la plus grande ville de France touchée par le réchauffement climatique. La température y aurait déjà pris 4 degrés en moyenne. Et donc, au-delà de réparer le cycle de l'eau, la plantation des arbres a des effets vertueux pour faire face aux canicules qui seront de plus en plus fréquentes. Nous avons repris 9 hectares de bitume grâce à la plantation de végétaux. Ça correspond à 13 terrains de foot. Si nous voulons rendre la ville moins chaude en été, c'est toujours mieux que le soleil tape sur des arbres que sur du goudron, résume tout simplement Grégory Doucet, le maire du Lyon, qui est issu d'une coalition politique, écologique et gauche. Ainsi, l'année 2024 verra moins d'arbres plantés dans la métropole pour que les agents puissent se concentrer sur l'entretien et la viabilisation de tous ceux qui ont déjà été plantés en 2023, parce qu'il y a du boulot. Il va falloir qu'ils apprennent un petit peu les métiers de jardinier aussi. La suite s'organise donc désormais sur le temps long, avec une volonté de la métropole de Lyon de débitumer encore 400 hectares de son territoire d'ici 2026, entre les anciennes et les nouvelles plantations. Et par exemple aussi, je sais qu'on fait ça du côté des cours d'école où les gamins sont quand même plutôt contents de jouer sur de la terre plutôt que sur du goudron.
C'était vraiment très intéressant.
Allez, en espérant que ces informations arrivent dans les oreilles des concernés et que ça donne des idées aussi aux municipalités du coin. On se quitte là-dessus. Eh bien, rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.